dans Jean 14, si vous avez une Bible avec vous. On va prendre quelques minutes pour ouvrir les Écritures. Je vais vous partager une réflexion. On va juste prendre quelques instants, peut-être une vingtaine de minutes. Jean 14. Si vous n'avez pas de Bible, ça va être affiché de toute façon en avant. Il n'y a pas de problème. J'ai beaucoup de respect pour ce que ces jeunes gens-là sont en train de faire. En passant, on baptise des vieux ici aussi. Pas juste des jeunes. C'est juste tombé comme ça. Mais j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils sont en train de faire. Cette génération-là parle d'intégrité, hein? Cette génération-là parle d'être vrai les uns avec les autres. Puis on peut voir dans la démarche qu'ils sont en train de faire une démarche d'intégrité, dans le sens qu'ils ont dit, bon, mais ça, c'était la foi de mes parents. Puis à un certain moment donné, c'est ma foi à moi, puis je vais l'affirmer aussi, ma foi. Fait que c'est une question d'intégrité avec eux-mêmes, pour prendre le temps de déterminer est-ce que c'est ma foi ou c'est celle de mes parents. Puis c'est une question d'intégrité aussi envers la société, envers leurs amis, envers leurs proches, qui c'est sûr, peuvent les regarder comme des space cadets un peu, qui sont pris dans quelque chose d'archaïque, tout ça. Et j'ai de l'estime pour leur démarche, le fait qu'ils s'affichent comme ça. Pas juste parce qu'ils sont en train de dire qu'ils rentrent dans ma gang. D'accord? Pas juste pour ça. Parce que ça prend du courage pour faire ça. Avec ça, j'ai beaucoup de respect pour ça. On a intitulé ce que je vais vous partager, « Chacun sa vérité ». À travers les témoignages qu'ils ont mentionnés, je pense qu'une des choses qu'on peut comprendre, qu'on peut entendre, c'est que chacun d'entre eux avait été instruit, parce que dans tous les cas, ce sont des jeunes gens qui viennent du milieu évangélique, donc ils avaient été instruits avec une vision du monde. Et puis, à travers leur cheminement, ils ont fait des choix, et à un certain moment donné, ils ont décidé de revenir à Dieu, comme eux autres l'ont dit. Et pour eux, c'est une manière de trouver le bonheur. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu. C'est d'être en paix avec eux-mêmes, d'être en paix avec Dieu, d'être en paix avec le monde. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que c'est leur chemin vers le bonheur. Pendant que j'étais en train de réfléchir cette semaine, puis j'étais en train de penser à ce que j'allais vous partager, je sais qu'il y a des invités ce matin, et donc je pensais à vous aussi. Mais je pensais aussi à ceux qui sont là dans l'église, puis qui regardent ça, puis qui disent, bah, il y en a qui trippent sur Jésus, c'est cool. Correct, mais je sais pas si moi c'est aussi intense que ça, mon affaire. On pourrait dire qu'ils ont trouvé leur chemin vers le bonheur. Puis dans un certain sens, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord pour dire que si notre conception du bonheur, c'est de traverser les jours sur la terre d'une manière confortable, d'une manière d'éviter le plus d'obstacles, de souffrances, de douleurs ou d'inconfort que possible, puis de vivre dans un état de bonheur, moi, je serais d'accord pour dire qu'ils ont trouvé leur voie, puis que le christianisme, c'est pas la seule manière de traverser la vie de manière confortable. Voyez-vous, je serais pas intègre avec vous si je vous disais que le christianisme, c'est la seule manière de vivre sur terre en étant confortable. Ce ne serait pas vrai. Dernièrement, j'écoutais un reportage, je pense que c'était à Télé-Québec, avec Télé-Québec ou Radio-Canada, avec Mathieu Ricard, celui qui est vraiment le porte-parole du bouddhisme en France. Puis, c'est évident que cet homme-là est bien dans sa peau. Ça frappe les yeux. Donc, dans une époque de relativisme moral où ce qu'on définit comme le bonheur, c'est de chercher à traverser la vie en enlevant les obstacles de la vie, en ayant un confort, je pense qu'il y a d'autres voies que le christianisme au bonheur, si c'est ainsi qu'on le définit. Parce qu'il s'agit que tu côtoies quelqu'un qui pratique le bouddhisme avec assiduité, puis tu te rends compte que boy, c'est confortable cette affaire-là. Je pense qu'il y a d'autres manières de vivre un certain bonheur sur la terre. Je serais prétentieux de vous dire que c'est juste le christianisme. Il y en a que c'est le bonheur chimique. Hein? Certains d'entre eux l'ont essayé. Un bon joint. Ça, je n'ai pas essayé la morphine encore. Il y a des bonnes chances que j'ai un cancer, comme la majorité d'entre vous. Fait qu'un jour, j'essaierai la morphine. Ça a l'air que c'est, C'est pas mal bon. Pas mal bon. Fait que, bonheur chimique, possible aussi. On vit dans un monde extrêmement matérialiste, dans le sens des biens matériels, mais une vision aussi très, très finie. On est ici juste pour traverser, vivre sur la terre. Et donc, je pense que si le bonheur amène pas si l'argent amène pas le bonheur, je pense que beaucoup d'argent peut, ça peut quand même aider à traverser la vie assez confortablement. On s'entend que c'est pas mal physique comme bonheur, mais beaucoup d'argent, tu sais, il me semble, ça serait moins compliqué. Alors, voyez-vous, il y a d'autres chemins. Puis en fait, si je veux être honnête avec vous, je pense même que si on définit le bonheur comme traverser la vie sans obstacle, sans souffrance, sans doute, sans être troublé, je dirais même que le christianisme, c'est pas le meilleur chemin. Parce qu'il faudrait que j'enlève l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc. Je veux dire, regardez Jésus, c'était comme pas drôle son affaire, tu sais. Pas de place où dormir, fini crucifié, fini méprisé, puis il dit, ceux qui veulent être mes disciples, chargez-vous de votre croix, puis suivez-moi. Tu sais, yes, sûr. Oh, ça va être le fun, tu sais. Fait que ces jeunes-là ont décidé qu'ils allaient vivre des doutes, des remises en question, des troubles, qu'ils allaient être un petit peu à part, qu'ils allaient vivre des conflits intérieurs aussi. Hein. On a beaucoup entendu parler de la lutte avec le péché. C'est pas nécessairement reposant de dire qu'il y a du bien et qu'il y a du mal et d'essayer de trancher ça puis de me confronter chaque jour avec est-ce que j'ai fait le bien ou est-ce que j'ai fait le mal. Il me semble que ce serait plus reposant de dire il y en a juste comme pas de bien ou de mal. Ton bien, c'est ton bien. Ton mal, c'est celui que tu voudras puis suis ta voie. Alors, je pense que ce serait même pas intègre avec vous de dire que le christianisme, c'est la voie la plus facile. Si tu ne veux pas vivre de souffrance, tu ne veux pas vivre de doute, de remise en question, ne deviens surtout pas chrétien. Ce n'est pas le bon chemin. Je sais que la vision que les Québécois ont souvent de ceux qui sont croyants, ils nous voient comme des gens qui n'ont pas de doute. T'sais. On est tellement obsédés parce qu'on croit qu'on n'a pas de doute. C'est pas vrai, ça. La salle ici est remplie de sceptiques convertis. C'est ça la vérité. Vous comprenez, on est des sceptiques convertis, on est des sceptiques qui avons douté de la foi, qui avons douté de Dieu, mais en même temps qui avons douté de pas Dieu. Jusqu'à temps qu'on se pose des questions puis qu'on se dit, bon, y a-t-il quelque chose de plus que ça? Alors, je ne suis pas en train de prétendre que le christianisme, c'est la seule voie vers un bonheur très matérialiste. Si votre vision du monde, c'est que l'être humain est quelque chose à peine de plus qu'un animal. Je veux dire, une chair avec une conscience puis une capacité d'apprécier la vie. Si l'être humain, c'est juste ça, et qu'on est vraiment un être fini, on s'arrête avec la mort et tout finit là, il y a des voies plus faciles. Je veux dire, en bout de ligne, l'euthanasie, c'est la suite logique de ça aussi. C'est une voie facile pour mettre fin à la souffrance. Donc, il y a des voies plus faciles que le christianisme. Mais voyez-vous, dans notre vision du monde, l'être humain est plus qu'un animal. On est plus que ça. Je trouve que l'Occident est extrêmement prétentieux. Et je comprends qu'il y en a qui se trouvent dans un cours de philo ce matin, je suis désolé. Je trouve que l'Occident est extrêmement prétentieux. L'Occident amène une vision matérialiste de l'homme. Puis l'être humain, c'est un animal qui est capable d'un peu plus, qui va vivre et mourir et ça s'arrête là. Et l'Occident a tout compris hein, comment ça marche. Nous autres, on a la bonne vision du monde, mais il y a quelque chose d'autre que l'Occident sur la Terre. Vous savez qu'il y a des milliards de personnes qui pensent que dans l'être humain, il y a un peu plus que juste un animal évolué. La vision du monde chrétienne veut qu'il y a une dimension spirituelle à l'être humain. En théologie, on appelle ça imago Dei. Dans la Genèse, la Bible nous dit que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. La Bible nous dit qu'en chaque être humain, il y a quelque chose de plus qu'une quête d'un bonheur temporel, d'un bonheur temporaire, puis il y a quelque chose de plus que juste l'accomplissement de soi. Il y a quelque chose de plus grand que ça. J'ai 40 ans, puis chaque fois que je parle avec des gens, chrétiens ou non chrétiens, quand je prends le temps de jaser avec eux pour essayer d'entrer en contact avec ce qui se passe à l'intérieur d'eux, moi, personnellement, je vois toujours plus qu'un être fini, qu'un animal évolué. Personnellement, je vois en eux quelque chose de plus grand que ça. J'ai rien contre les animaux, j'aime mon petit caniche sushi, je l'aime vraiment, elle est super belle. Mais quand je parle avec un être humain, je passe dans une autre dimension. Je passe à une autre vitesse. Et il y a des milliards de personnes sur la Terre qui croient qu'il y a une dimension spirituelle à l'être humain, qui dépasse une vision uniquement matérialiste de l'homme. Ce que vous avez entendu dans le témoignage des quatre jeunes gens qui étaient là, c'est qu'ils ont la conviction intérieure qu'ils ont une âme, qu'ils ont été créés à l'image d'un créateur, d'un être qui est plus grand. J'aimais entendre l'année dernière Gilles Vigneault qui disait, je sais que ça a l'air complètement fou, mais moi je crois qu'on a une âme. Je ne comprends pas tout, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va, mais il y a quelque chose, il y a une âme. Dans cette perspective-là, si c'était possible qu'on soit plus qu'un être fini qui s'arrête après 75 ans de vie, je pense que là, Jésus devient pas mal intéressant. Et je pense que c'est juste dans une espèce d'arrogance, de prétention qu'on peut rejeter des siècles d'histoire, des millénaires d'histoire en disant tous ces gens-là avaient une vision du monde complètement capotée parce que c'était des abrutis qui n'avaient pas encore compris le monde. Mais nous, on l'a compris. Comprenez qu'en Occident, cette vision matérialiste de l'homme qui est en train de s'imposer de plus en plus est encore marginale sur la Terre. Et tous ces autres hommes qui vivent ailleurs sur la Terre, qui pensent qu'on a une âme qui a une dimension spirituelle, qui la cherche dans toutes sortes de religions, ce n'est pas tous des êtres moins évolués que vous, que nous, occidentaux. Et si on a une âme, Jésus devient intéressant. Devient au moins une option à considérer. Et ce que j'aimerais faire avec vous ce matin, c'est simplement vous inviter à ne pas vous enfermer dans vos croyances, à ne pas rejeter des millénaires d'histoire, mais à prendre le temps de donner une chance au christianisme. Je sais que vous avez toutes sortes d'images du christianisme. Vous savez, l'être humain est tordu et il va toujours récupérer toutes sortes de choses pour les déformer. Si votre vision du christianisme, c'est la vision d'un preacher en avant qui va sortir avec sa Cadillac, je vous invite à venir faire un tour avec moi dans ma Éco 2000 tantôt. D'accord? D'accord, je vous invite à faire ça. Si vous avez besoin de venir manger chez nous pour voir ma maison, voir mon sous-sol qui est à refaire, venez-vous-en, je vous invite à dîner tout à l'heure, ça va me faire plaisir, d'accord? Mais je sais qu'il y a toutes sortes de visions qui ont été présentées du christianisme. Le christianisme, c'est une patente pour contrôler le monde. Je ne sais pas, moi je les trouvais pas mal libres, ces jeunes-là. Je les trouvais plus libres qu'ils ne l'étaient avant lorsqu'ils affirmaient pas ce qu'ils croyaient. Et moi, je me sens pas prisonnier ici. Je me sens très libre de penser, d'examiner, de réfléchir. Je vous lis mon passage dans Jean 14, 6, puis j'achève mon speech. Jean 14, je vais vous lire les versets 1 à 6, d'accord? Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas, un des disciples de Jésus qui est avec lui depuis 3 ans, qui était censé comprendre la patente, dit... Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Maintenant, il faut que vous sachiez que tout ce que les disciples avaient vu, c'était Jésus. Parce que Dieu est un esprit. Et donc, ils n'avaient jamais vu comme Dieu le Père avec sa grosse barbe blanche. Philippe, un autre des disciples, lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Si on peut avoir une apparition, tu sais, c'est clair, on croit, là, c'est gagné, c'est fait. Là. Tu règles le dossier si on peut le savoir, une apparition. « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Notre compréhension, c'est que Dieu nous a créés à son image et que Dieu, dans sa grâce, s'est incarné dans une personne. Alors, voyez-vous, pour nous, Jésus, ce n'est pas un chemin vers mon petit bonheur, ma petite place au ciel. Ce n'est pas un chemin vers Dieu. Aussi, Jésus ne nous a pas montré le chemin vers Dieu. Le suivre, l'imiter, devenir comme Jésus, puis on va aller vers Dieu. Notre compréhension, c'est que Jésus-Christ est le chemin. C'est-à-dire qu'il est Dieu incarné, il est Dieu fait homme. Alors, lorsque Philippe lui dit, il dit, « Jésus, Seigneur, montre-nous le Père. » La réponse de Jésus, c'est, « Oui, mais vous m'avez connu, vous avez connu le Père. » Je vous laisse avec ça ce matin. J'aimerais ça vous inviter à vous donner un défi personnel, à rester ancré dans la réalité. La réalité, c'est qu'on est en 2010, après Jésus-Christ. Il y a un personnage historique qui est adoré un peu partout dans le monde par des millions et des millions de personnes. Ces gens-là, ce ne sont pas tous des abrutis. Ce sont des gens qui ont la conviction profonde qu'ils ont une âme et qu'il y a un Dieu. Alors, je vous mets au défi, dans la prochaine année, de vous procurer une Bible et d'aller lire les Évangiles. Commencez par Jésus. Et vous savez quoi? Si c'est vrai, c'est sur lui que repose le fardeau de la preuve. Tout ce que je vous demande, c'est d'avoir l'ouverture d'esprit, de lire l'Évangile de Jean, de lire un Évangile cette année. Et simplement de dire, regarde, si c'est vrai que tu es là, il faut que tu réveilles quelque chose en moi parce que j'ai aucun sentiment que j'ai besoin de toi. Puis pour moi, c'est une gang de flyers, cette gang-là. C'est bon? Merci.
C'est vraiment une joie et un plaisir ce matin d'être avec ces jeunes qui se font baptiser. Ils ont eu un cheminement, ils ont dû prendre une décision eux aussi. Voir s'ils voulaient suivre leur propre voie ou suivre Dieu et être dans la joie et le bonheur pour l'éternité. On va commencer avec Jérémie ce matin, premier témoignage. Yeah.
Bonjour puis tout. J'ai oublié ma Bible. Je suis.
Oh non.
J'en ai une. Bon. Bonjour, je m'appelle Jérémie Lacasse. OK. J'ai 19 ans. Je suis fils de Chantal Bourdage et de Marc Lacasse. Je suis un fils d'une famille chrétienne. Je vais m'approcher du micro. Puis depuis que je suis jeune, mais j'ai reçu une éducation chrétienne, comme les histoires de Moïse, de Jonas et de Jésus. J'allais à l'église par conformité. Je suivais mes parents parce que c'est je pensais pas par moi-même. Je suivais ce que mes parents faisaient. Mais j'ai accepté Seigneur comme mon Sauveur. À l'église de Saint-Bruno que M. Daniel Gagné avait implanté. Puis à ce moment-là, j'avais ressenti vraiment l'esprit rentrer en moi, puis j'avais ressenti vraiment une joie. Mais là, un peu en même temps, mes parents se sont divorcés, puis j'en ai voulu à Dieu, puis c'est là que j'ai commencé à une rébellion, si on veut. Puis j'ai vraiment commencé à être violent envers ma mère parce que je vivais avec elle. Puis j'ai eu des problèmes avec la DPJ. Bien, j'aurais eu des problèmes si ma mère n'aurait pas été aussi patiente. Puis c'est ça, j'enterrais l'esprit, puis je voulais pas... Ben, j'en reviens pas que je suis en avant, mais en tout cas... j'enterrais l'esprit, puis ça, puis au secondaire, mais jamais j'aurais dit que j'étais chrétien. Je disais, ma mère est bizarre, puis moi, je suis pas de même. Puis j'ai commencé à être vraiment influençable, puis j'ai pris de la drogue, puis j'avais des mauvais amis, j'étais agressif. Mais j'ai eu la chance de vraiment pouvoir délaisser certains amis puis en prendre des vraiment bons autres. Puis ça m'a permis vraiment pouvoir discerner quelque chose. Puis l'esprit travaillait en dedans de moi au travers de ça. Puis
Excuse-moi, tu me parlais tantôt qu'il y avait une période où il y avait même pensée suicidaire et de suicide.
Oui, c'est que quand je suis rentré au cégep, puis je commençais à beaucoup lire, puis à beaucoup aimer la philosophie, j'ai beaucoup pensé, puis ma sagesse, elle a augmenté autant que ma tristesse. Puis je pensais, puis ça servait à rien de vivre, puis il y a des événements que mes amis peuvent témoigner, que je m'étais assis sur un fil électrique au troisième étage d'un bâtiment, à côté du balcon, puis si Dieu m'aurait pas protégé, je serais tombé à terre, je m'aurais cassé le cou, puis... Mais le Seigneur a vraiment pris soin de moi parce qu'il y avait un plan pour moi. Puis là, mes amis et ma famille m'ont conseillé de rencontrer une psychothérapeute. C'était une psychothérapeute chrétienne. Puis elle m'a vraiment pu m'éclairer dans des choix. Puis j'ai découvert que j'étais un menteur pathologique parce que je mentais pour avoir un amour que j'avais pas. Comme par exemple, j'avais fait croire à ma famille et à mes amis que j'avais été taxé pour que le monde me réconforte, mais dans le fond, c'était pas vrai. Parce que j'avais un vide que j'aurais aimé combler avec l'amour de Jésus. Puis là, l'esprit travaillait de plus en plus comme ça. Puis pendant que ça faisait un petit ménage comme ça, j'ai eu envie d'aller à Bethel cet été. Puis c'était parfait pour mon père et mon petit frère, parce que si je venais, mon petit frère aussi allait venir et ça allait être vraiment dans le plan de Dieu. Puis il y a eu un message d'une semaine à Bethel sur la chair par M. Noël Aubu. Puis il y a un soir que vraiment l'esprit me parlait, puis je me suis couché étendu dans l'herbe au milieu des collines à Bethel. Puis c'est là que j'ai accepté vraiment le Seigneur comme mon Seigneur. Puis en même temps, j'ai demandé un signe, tu sais, comme qu'on a besoin de visuel. En même temps, mon père est arrivé 3 secondes après, puis il m'a dit « Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que tu veux qu'on parle? » Puis là, il est allé chercher une couverte, puis on a parlé, puis on a pleuré, puis on a prié. C'était vraiment incroyable. Un peu plus de temps plus tard, j'ai pleuré avec ma copine, puis on a pris des grandes décisions de se quitter pour que moi, je suive le Seigneur. Ça y a fait très mal, c'est sûr, mais... Là, je suis vraiment béni parce que je peux vraiment rester proche de mon ancienne copine puis continuer un témoignage. C'est vraiment super. Puis j'ai commencé les cours les mardis après-midi avec Alexandre Marquis sur l'Épître de Marc. Puis j'ai vraiment pu apprendre des choses que je n'avais pas apprises quand j'étais jeune à l'école du dimanche. Puis ça, j'ai recommencé à venir à l'église. Puis à un moment donné, Samuel Rondeau est venu me voir pour m'inviter à collège et carrière, la jeunesse de mon âge. Puis aussitôt que je suis allé une fois, c'était vraiment cool parce que c'était tous les jeunes qui étaient avec moi à l'école du dimanche quand j'avais 9 ans. Alors, c'était vraiment swell, si on peut dire. Après, il y a eu un message d'Alexandre Marquis sur le baptême. Puis ça expliquait clairement que c'est pas compliqué. Tu crois, tu te fais baptiser, point final. Fait que il n'y a pas 4 chemins, là, c'est aussi simple que ça. Fait que c'est ça, pour en venir jusqu'aujourd'hui, j'ai jamais été autant heureux. J'ai une paix dans mon cœur, une joie de vivre, puis un nouveau sens des responsabilités. Puis je m'investis dans mon église locale, puis il y a plein de plans pour moi, comme partout. Mais ça m'a pris, c'est quand même malheureux que ça m'a pris 10 ans pour comprendre que le meilleur pour moi, c'était le Messie. Puis j'ai un passage qui reflète comment je me sentais dans mes sombres moments. C'est psaume 32, 3, 4. Tant que, ouais. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, et tu as effacé ma peine de mon péché. Alors, c'est ça.
Merci, Jérémie. Je pense que tout le monde recherche le bonheur. Et David a essayé de chercher le bonheur de sa façon aussi. Il va nous conter comment il a vraiment trouvé le bonheur.
Bonjour, bon matin. Pour commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle David Couture-Gauthier, j'ai 20 ans. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Depuis que je suis né, je vais à l'église. J'entends parler de Dieu, Jésus, les histoires de Nouveau et l'Ancien Testament. Quand j'étais petit et l'adolescence, disons que l'église, j'y allais pas mal par habitude parce que mes parents y allaient. J'avais pas vraiment une certaine passion pour l'église. J'aurais aimé mieux rester couché. Puis, à l'âge de 7 ans, à Bethel, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Mais seulement comme mon sauveur. Moi, il prenait pas grand place dans mon cœur. Je disais, merci, tu m'as sauvé, fine, le reste, je m'en occupe. J'allais dans les camps chrétiens, j'aimais vraiment ça, les activités étaient le fun, j'avais toujours ma gang d'amis, puis les messages étaient vraiment bons. À chaque fois que je revenais, j'étais vraiment primé pour Dieu, je voulais vraiment changer, j'étais rempli de Saint-Esprit, mais je retombais vite dans les mauvaises habitudes, je retombais avec mes amis, puis... Je leur disais que j'étais chrétien, mais mon témoignage prouvait vraiment le contraire. Je faisais tout ce qu'ils faisaient, puis j'embarquais avec eux. J'étais vraiment indifférent face à mes péchés. À l'âge de 17 ans, je me suis trouvé un emploi. J'ai commencé à travailler tous les dimanches pendant 2 ans et demi. Pendant cette période-là, je me suis vraiment éloigné de Dieu. J'ai arrêté de lire ma Bible, arrêté de prier, arrêté de venir à l'Église. Puis là, avec mes amis, on a commencé. Moi, j'ai commencé à consommer de la drogue régulièrement. J'aimais ça prendre un coup. J'étais vulgaire, je sacrais. J'étais vraiment pas. Je me disais chrétien devant mes amis, mais j'étais tellement hypocrite. Puis moi, c'est là-dedans que je trouvais mon plaisir, là, dans la chair. Je pensais que j'étais heureux là-dedans, mais je me suis vite rendu compte que ça me satisfaisait pas. Fait que. Pendant cette période-là, moi, mon but un peu, c'était vraiment de toujours trouver quelque chose qui pourrait me rendre heureux. Mais je trouvais jamais rien. J'essayais plein de choses. Je m'achetais des bébelles, puis ça me satisfaisait jamais. J'essayais des nouvelles choses. Je sortais encore plus, mais jamais à toutes les fois. Il me manquait quelque chose, puis j'étais comme malheureux dans ma quête de bonheur. Puis là, je me sentais aussi pas mal honteux face à Dieu. Je savais que... Je vivais dans le monde, puis que j'étais vraiment une brebis perdue, je savais. Puis, mais je changeais pas, j'aimais ça. J'ai recommencé à venir à l'église à peu près un petit peu plus d'un an, parce que ça tombait que je travaillais pas les dimanches. Puis pendant cette période-là que je revenais à l'église, je suis vraiment revenu par moi-même. Je trouvais que les messages étaient bons, puis cette fois-ci, j'écoutais vraiment. J'étais passionné par ce qui se disait en avant. Je me souviens, Alexandre Marquis avait fait un sur le vrai bonheur. Ça m'a vraiment parlé. Il disait que c'était péché d'essayer de trouver son bonheur autre qu'en faisant la volonté de Dieu. Puis moi, je me voyais tellement là-dedans. Je me disais, c'est sûr que le Seigneur a fait que ce message-là soit fait un dimanche que j'étais là, parce que je me reconnaissais tellement là-dedans. Je faisais pas la volonté de Dieu, puis... Ça, c'est un péché que j'avais. Puis, ou sinon, un autre message qui disait que quand on a la foi, Jésus, il prend toute la place dans notre cœur. Moi, j'avais la foi, mais il y avait aucune place. C'est tellement pas lui qui dirigeait ma vie. Puis, c'est là que je me suis vraiment rendu compte à quel point j'étais esclave de mes péchés. Je les aimais. Je voulais pas les laisser abandonner. C'était vraiment ça qui guidait ma vie. Puis, le Seigneur a comme ouvert mes yeux, puis j'ai vraiment réalisé que c'était pour ça que Jésus était venu mourir pour moi, parce que je ne pouvais pas m'en débarrasser moi-même, je les aimais trop, puis c'est pour ça que Jésus a donné sa vie pour moi, pour que je puisse me débarrasser de ces péchés-là. Puis tout ça ruminait en moi, puis mais je continuais encore un peu pendant cette période-là à vivre un peu dans le monde, puis Là, je réfléchissais tout le temps. Tous les dimanches, je rentrais chez nous, puis je réfléchissais, puis j'avais honte parce que je continuais à vivre de même dans ma vie. Puis le fardeau du péché a commencé à être vraiment lourd à porter. La honte face à Dieu, j'étais plus capable, vraiment, là, mais j'aimais mes péchés. Puis un dimanche, je suis arrivé chez nous après un autre message qui m'a vraiment touché. Puis j'ai pensé à ça toute la journée. J'étais malheureux, puis je voulais plus avoir ce fardeau-là. Fait que j'ai prié à Dieu. J'ai dit, j'en veux plus de cette vie-là. Tu m'as sauvé. Tu es mort pour moi. Puis moi, je vis tout croche. J'en veux plus de cette vie-là. Fait que j'ai demandé à Dieu qu'il me donne sa puissance pour que je puisse me débarrasser de ce qui prenait toute la place dans ma vie. Puis il est tellement merveilleux. Il a tout de suite répondu. Les mois qui ont suivi, j'ai abandonné tout ce qui prenait toute la place dans mon cœur. J'ai recommencé à aller à l'église, à la jeunesse, au collège et carrière. Puis la dernière année a vraiment été pour Dieu, puis ça a été la meilleure année que j'ai eue, puis je sais qu'il va y avoir encore d'autres bonnes années qui s'en viennent, parce que je l'ai vécu pour Dieu. Là, je vais vous laisser sur un verset qui m'a touché, mais un petit peu après, j'ai vu que ça, c'était ma situation. C'est « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et recevez mon enseignement, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Matthieu 11, 28.
Avant d'inviter Charles et Daisy qui vont suivre pour leur témoignage, on va chanter un chant ensemble. C'est le chant que Daisy...
Charles vient aussi d'une famille chrétienne et lui aussi a dû faire un choix.
Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Charles de Grandmaison, le fils de Paul et Monique, et j'ai 24 ans. Comme M. Simpleur l'a dit, je suis né dans une famille chrétienne. Donc, dès ma jeune enfance, j'ai reçu l'éducation avec les principes bibliques. J'allais à l'église, j'ai appris les histoires de la Bible en allant à l'école du dimanche. En juillet 1998, lorsque j'avais 11 ans, j'ai participé au camp d'été de Parole de vie Bethel. Un soir, nous étions rassemblés autour d'un feu et M. Jonathan Godfrey a fait une invitation à ceux qui voulaient accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Je me suis donc levé, car j'avais bien compris à ce moment que j'étais pécheur et que Jésus était mort personnellement pour moi, pour mes péchés. Mon moniteur de camp à cette époque-là, c'était Michael Ferland. Puis il m'a accompagné pour s'assurer que j'avais bien compris le message de l'Évangile. On a ensuite fait une prière ensemble, puis à ce moment-là que j'ai vraiment fait profession de foi. Je me souviens encore à ce moment-là, après cette prière, que j'avais des frissons. Je tremblais de joie parce que je venais de recevoir le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais offert, la vie éternelle. Dans Romains 19, pour illustrer la décision que j'avais prise, ça dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Au secondaire, j'avais pas vraiment de problème de m'afficher comme chrétien. J'avais par contre un petit peu de difficulté à savoir comment témoigner à mes amis la bonne nouvelle. Certaines personnes qui m'ont rejeté, il y a d'autres personnes qui m'ont posé des questions. Ça n'a pas toujours été facile pour moi d'être différent des autres jeunes de mon âge ou de m'afficher publiquement comme étant un chrétien. Mais heureusement, j'avais des bons amis, particulièrement Jacob Ferland et David Bacon, qui m'ont aidé à persévérer dans ma foi. Vers l'âge de 17 ans, j'ai commencé à aller au cégep, puis du même coup, j'ai débuté un emploi étudiant à la fin de semaine. Donc, je devais m'absenter de temps en temps à l'église le dimanche matin, et peu à peu, je me suis éloigné de Dieu. Éventuellement, j'ai même arrêté de complètement lire ma Bible. Et même si je venais à l'église de temps en temps, la parole de Dieu ne me touchait plus comme avant. Rendu à l'université, soit il y a environ 4 ans, Dieu n'avait aucune place dans ma vie, même si j'avais le Saint-Esprit en moi qui me parlait. Je péchais à répétition sans avoir de remords parce que j'aimais ça. Je sais que plusieurs personnes ont prié pour moi, spécifiquement ma mère, pendant 7 ans de rébellion. Puis je veux vous remercier aujourd'hui parce que c'est en partie grâce à vous si je suis devant vous. Durant l'été 2009, je me souviens encore un soir où j'ai senti un vide. J'ai réfléchi à ce que ma vie était devenue et j'ai réalisé à quel point j'avais frappé un mur et que je m'enlignais pas dans la bonne direction. J'avais plus aucun objectif, aucune raison. Tous les plaisirs du monde auxquels je m'adonnais, ce n'était que des mirages. À ce moment-là, je me suis mis à pleurer parce que j'avais honte de tout le mal que j'avais commis envers Dieu. J'ai demandé pardon à Dieu, puis dans tout son amour, sa miséricorde et sa grâce, il m'a pardonné. Dans Ésaïe 55:7, ça dit « Les gens mauvais doivent abandonner leur conduite. Celui qui fait le mal doit abandonner ses pensées méchantes. Tous doivent revenir vers le Seigneur, car il aura pitié d'eux. Tous doivent revenir vers notre Dieu, car il pardonne généreusement. » Depuis ce jour où j'ai demandé pardon à Dieu, je peux officiellement vous dire que je me suis reconsacré entièrement pour mon Sauveur et Seigneur. Je n'ai jamais été aussi heureux et béni par les changements que Dieu opère dans ma vie. Mon seul désir maintenant, c'est de le suivre jusqu'au bout. C'est pour cette raison que je suis devant vous aujourd'hui, afin d'annoncer publiquement mon intention de marcher avec Dieu pour le restant de mes jours en me faisant baptiser comme Dieu le demande. Merci.
On va terminer avec Daisy. Daisy, comme elle va vous le partager, son cheminement a été un petit peu long. Ça a pris du temps avant de réaliser des choses, ainsi de suite. Mais maintenant, elle va nous conter qu'est-ce qui s'est passé.
Bonjour. C'est ça, je m'appelle Daisy Chaté-Blasquez. J'ai 24 ans. Je suis née au Chili. Je suis venue ici à l'âge de 1 an avec mes parents Yvonne et Herman Chaté. Ma mère était catholique. C'est mon père. Okay. Alors, ma mère était catholique. Mon père, je ne sais pas trop. Il était un peu mélangé. Il avait déjà eu son parcours. Et puis, ici, vraiment, c'est là où ils ont donné leur vie au Seigneur. Alors, j'ai accepté le Seigneur Jésus à 4 ans. Oui, à 4 ans. Lors d'une des études bibliques que mon père faisait avec nous, ses enfants, il prenait du temps pour nous enseigner la parole. Et puis, à un moment donné, il nous a parlé de justement le plan de salut d'une manière adaptée un peu pour nous, à l'âge qu'on avait. Et puis, ce soir-là, il nous avait expliqué que Satan avait tenté Ève et que depuis ce temps-là, on allait en enfer, mais que Jésus était venu mourir sur la croix pour nous et que si on lui demandait de venir vivre dans notre cœur et qu'on reconnaissait qu'on était pécheurs, on était sauvés d'enfer. En bref, là, il y avait beaucoup plus que ça, mais en tout cas. J'ai donc demandé à Jésus de venir dans mon cœur. Je sais alors que j'étais sauvée et que Jésus était mon Seigneur et mon Sauveur, mais avec le temps, l'adolescence et les tentations, je l'ai tassé un petit peu comme Seigneur. De plus en plus, je m'éloignais. Disons que je n'avais pas toujours un bon témoignage sans faire des choses très graves. Là, j'étais quand même une bonne fille, mais dans ce qui est pour le monde, le critère de ce que c'est une bonne fille dans le monde, sans même toujours me rebeller contre Dieu, j'aimais ça venir à l'Église, puis je croyais toujours en lui. Mais disons que j'essayais de faire taire le Saint-Esprit en moi. Il faut dire que, aussi, le fait que tu sais, j'avais pas beaucoup d'amis chrétiennes, ça l'a influencé cet écartement que j'ai eu. Puis vers l'âge de 20 ans, j'ai commencé à être fatiguée d'avoir un pied dans le monde et puis l'autre avec Jésus. Je me sentais loin de lui et mon âme aussi. Je ne saisissais pas vraiment l'amour de Dieu, puis je voulais commencer à le saisir. Je voulais comprendre c'était quoi ça, la joie, justement, de savoir qu'on était sauvés. Où est-ce que j'en étais? OK. Puis aussi, je réalisais aussi que les choses que j'avais essayées, puis vivre comme les gens qui ne connaissent pas Jésus, finalement, ça ne m'apportait pas grand-chose, puis j'en étais pas plus comblée. Il y avait pourtant beaucoup de choses que j'avais laissées rentrer dans ma vie qui m'empêchaient de grandir dans ma foi comme que j'aurais voulu puis que j'avais besoin. En grosse partie, ben, tu sais, aussi, il y avait le fait que je sortais avec un non-chrétien. Ça, c'était aussi quelque chose qui a grandement aussi, qui bloquait un peu ma croissance spirituelle. Peu à peu, c'est ça, de plus en plus, je désirais, puis de ravoir comme ce lien-là que Dieu veut avoir avec ses enfants, finalement. Et puis, j'ai commencé à retirer les choses qui m'empêchaient de grandir pleinement. Puis, ça a été long, mais ça, je pense que ça a été un bon processus. Puis, en fait, c'est ça la vie chrétienne, c'est quelque chose qui est constamment en évolution. Aujourd'hui, je suis devant vous pour me faire baptiser. Oui, c'est vrai, comme M. Saint-Pierre l'a dit, il y a eu beaucoup de temps entre ma conversion et la journée, 20 ans en fait, là, la journée de mon baptême, mais je peux aujourd'hui affirmer que Jésus est pleinement mon Seigneur et Sauveur. Alors, je vous remercie. Et puis, il y a un verset que j'aimerais vous lire, c'est le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la mort, de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. C'est un peu ça. Merci.